Bonjour à tous, je voulais faire une petite annonce de service avant de commencer cette conférence. Nous avons sur scène Paolo Bacigalupi, qui est anglophone, et donc pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, il y a des boîtiers de traduction qui sont situés tout au bout de la scène derrière, et merci de vous en venir si vous voulez. Merci à tous d'être venus pour cette conférence sur le héros handicapé en science-fiction. À mes côtés, nous avons Michel Laframboise, qui est auteur, Paolo Bacigalupi, qu'on ne présente plus pour les habitués de la scène Chaillol, qui est un de nos invités de marque, Laurence Sunner, qui est auteur d'une grande trilogie qui s'appelle Quantica, si je ne me trompe pas, et enfin, tout au bout, Clément Pellissier, qui est universitaire, qui a produit plusieurs papiers sur la représentation du handicap dans les comics américains. Je me trompe pas?
C'est ça.
Hop, ça fonctionne. C'est bon.
C'est bon?
Oui,
c'est ça.
Ma première question, très bête et très, très méchante, et qui concerne nos auteurs. Vous avez tous, plus ou moins, amené un personnage handicapé dans vos œuvres. Est-ce que vous pouvez en parler, et brièvement parler, pour que le public resitue et accessoirement puisse connaître ces héros handicapés? Oui.
Oui, si je peux parler. Dans mon livre, Les Nuages de Phénix, qui était mon premier roman, il y avait une jeune fille de 10 ans qu'un accident avait privé de l'usage de ses jambes et de sa voix, pour certaines raisons, ses cordes vocales. Et son père lui a bricolé une salopette robotisée et un appareil pour la voix. Elle s'appelle Blanche. Et puis, dans une autre de mes histoires, là, la narratrice, c'est une femme très peureuse et fragile parce qu'elle a grandi sur Mars et elle a des os fragiles. Voilà pour le moment.
Yeah, this actually shows up in a bunch of my different stories, and the more I thought about it, the more I noticed that these sorts of things would show up. But primarily, I think, in my novel, Wind-Up Girl, Emiko, one of the main characters, is a bioengineered human being, but she's been optimized in ways that are useful to her owners, but not to her. And so her skin has actually been designed so that it's extremely smooth, but it's not as porous. She doesn't have as many pores as she should, and so she can't sweat the way she should. And so she can't cool down the way she should be able to. And so she's been optimized for one set of environments, which are climate-controlled and contained environments. And she's been abandoned in Bangkok. And so she's trying to survive in a place where she cannot cool herself down sufficiently. And so she struggles constantly to sort of manage her movement and her... how much energy she expends so that she doesn't overheat herself. So that's one character. The other character that strongly shows up with this is my character Malia in The Drowned Cities, and she's been attacked by a militia, and they've chopped off one of her hands. And in the opening scenes of the story, we already see that she has had run-ins with the militia. She's lost a hand. She's barely survived, and she's trying to survive out in the jungle without getting caught again by them.
Bonjour. Alors, en fait, dans ma trilogie Quantica, j'ai le personnage principal qui s'appelle Ambre Pasquier, qui a vécu un traumatisme étant enfant et qui n'a plus aucun souvenir en fait de son adolescence, enfin jusqu'à ses 14 ans à peu près, et qui a dû imaginer en fait un passé qu'elle n'a pas vécu. Et qui, du fait de ce traumatisme dont elle ignore totalement l'origine, est complètement détruite émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle fonctionne plus du tout selon les émotions. Et c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement intellectuel et qui compense en fait son manque d'émotion par un aspect intellectuel très poussé, même trop poussé. En fait, une intelligence différente, mais très rationnelle, trop rationnelle. Et d'autre part, en fait, dans ma trilogie également, le pendant, en fait, c'est-à-dire que j'ai une civilisation qui a subi un traumatisme et qui a perdu ce qu'on appellerait une mémoire génétique, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus qui ils sont. Et c'était une civilisation entière, en fait, qui avait un pouvoir d'empathie très profond et un pouvoir d'entrer en cohésion planétaire, c'est-à-dire de créer une noosphère planétaire, c'est-à-dire au lieu d'être des individus séparés, ils pouvaient en même temps fusionner en une entité, en une noosphère planétaire, qui régissait leur environnement et aussi qui préservait la totalité de leur espèce. Et à cause d'un quelque chose qui s'est produit, en fait, qui est en relation avec ce qui s'est produit avec cette héroïne qui a perdu sa mémoire, puisque les deux thèmes évidemment sont reliés, ils savent plus qui ils sont, ils ont perdu la mémoire, et surtout ils avaient une possibilité de communier par un biais émotionnel qu'ils ont dû remplacer. En fait, ils ont compensé ce handicap en créant l'écriture qu'ils n'avaient pas au départ. Donc pour eux, ils ont vécu une évolution différente de la nôtre. On a passé à l'écriture, etc. C'était quelque chose d'important. Et eux, ils n'ont jamais créé l'écriture. Ils ont dû créer l'écriture pour pouvoir préserver leur mémoire déficiente. Voilà.
La science-fiction regorge de personnages. On va en égarger un peu. On ne parle pas que de héros. On parle de tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, de personnages handicapés, qu'on parle de cyborgs, de handicap physique, par exemple, avec le personnage de Bruce Willis dans Intouchable, ou du professeur de Charles Xavier, par exemple, en comics. Certains personnages, comme Batman, qui, pendant un moment, subit un accident et devient paralytique. Quel est l'intérêt dans vos fictions, mais dans la science-fiction, d'avoir des personnages handicapés? On va commencer par toi, Clément, sur la BD, par exemple.
D'accord. Bah, je dirais qu'en fait, le handicap, ça permet d'être mis en face de ses propres limites, les limites du corps, les limites de l'esprit. Et pour ce qui est des super-héros, je pense qu'il faut distinguer le point faible du handicap. Le handicap n'est pas forcément un point faible, et c'est vrai partout, chez les super-héros ou pas d'ailleurs. C'est surtout une manière de surcompenser quelque chose. Le point faible est ce qui va mettre le super-héros la plupart du temps en danger de mort. C'est pour ça que la kryptonite est le point faible de Superman. C'est ce qui va lui faire perdre ses pouvoirs et le tuer si l'exposition est trop prolongée. En revanche, le handicap, c'est souvent, en particulier chez Marvel, qui est très sensible à ce genre de questions, c'est souvent l'occasion de dépasser sa propre condition et de faire de ce handicap la base même du pouvoir. C'est le cas par exemple pour Daredevil, qui est un très bon exemple de ça. Son pouvoir vient du fait qu'il est devenu aveugle, précisément.
Michel, Laurent.
En parlant de Daredevil, dans un épisode, il rencontre une jeune fille sourde qui, elle aussi, a très bien compensé son handicap par une mémoire visuelle extraordinaire. Elle peut imiter tout ce qu'elle voit. Pour citer un auteur dans... j'aime bien Louis McMaster Bugeaud. Vous connaissez tous Miles Vorkosigan. Mais on a aussi des handicaps culturels. Dans Ethan d'Athos, le personnage vit dans une société entièrement de planète d'hommes. Ils s'organisent entre eux. Ils ont des couveuses automatiques pour la reproduction. Puis, à un moment donné, il doit quitter son monde pour aller chercher d'autres ovules, parce qu'ils ont quand même besoin d'ovules. Et il arrive, il est complètement largué dans ce monde et il doit rechercher. Et puis, en plus, pire encore, il faut qu'il demande l'aide d'une femme. Voilà.
I think that a lot of times you actually do see this idea, and writers use it a lot, where with some great power, there's going to almost always be a balancing weakness or vulnerability of some kind, and disability is often used in that way to sort of balance out the immense power. And it's interesting that you mention also, Clement, that sometimes the cause of the loss of one thing is immediately replaced by something else more powerful, and those are I think that there's some sort of odd I think it's almost maybe a cultural demand that we say that with this great power there must come a cost. You can't get too high and mighty. We will always make you pay for it somehow, and that it's almost weirdly, I don't know, Christian in its sort of lashing one from, you know, punishing you for having something wonderful. And it's I see that a lot, actually, in fiction.
Oui, ben, c'est un peu ce qui ressort aussi, c'est-à-dire dans mes romans, j'avais envie de, que les personnages doivent surtout se réinventer différemment. C'est-à-dire que imaginer comment fonctionner en ayant perdu une capacité et la remplacer par une autre capacité différente. Donc c'est une évolution. Bon, dans le cas de mon personnage principal, au début c'est un désavantage, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à gérer pendant très longtemps. C'est-à-dire que ça devient vraiment quelque chose de très destructeur. Et finalement, elle passe par cette civilisation. En comprenant cette civilisation, et elle se réinvente elle-même différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle surpasse son handicap. Mais dans le cas de ce personnage, elle met beaucoup de temps à surpasser en fait, son handicap. Et c'est l'apport extérieur d'une civilisation autre qui lui permet enfin de le surpasser et d'en faire quelque chose d'autre. En fait. Ça, c'est le cas dans mes bouquins.
Est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, pour toi, Laurence, mais aussi Michel et Pago, de déconstruire certains clichés sur grand handicap, de vouloir briser un peu certains présupposés sur grand handicap en écrivant ou en développant son personnage, justement?
En fait, je ne sais pas, mais en fait, c'était très bizarre dans mon cas. C'est qu'en fait, j'ai imaginé des personnages qui ont vraiment des handicaps, on va dire, psychologiques ou bien émotionnels, sans trop savoir ce que c'était, en fait. Et ensuite... J'ai vécu le même genre de... J'ai eu un problème au cerveau. Et j'ai dû moi-même être confrontée à ça et réapprendre différemment, par exemple, à écrire ou des choses comme ça. Et donc, je ne sais pas si je peux vraiment en parler avant, puisque c'était un hasard, on va dire, ou alors il n'y a pas de hasard. Mais en même temps, c'est quand même paradoxal, en fait, d'avoir parlé de quelque chose et, en fait, de le vivre droit derrière. En fait. Donc, c'est assez... je ne sais pas exactement si c'était pour aller au-delà, pour surpasser cette idée. Je ne sais pas exactement, en fait.
Pago.
You know, I think that it's interesting because we do have these stories which are both immensely satisfying and they are cliché at the same time. Oh, you were damaged in some way, but oh, now you've gained a power. Or because you become powerful, you must become damaged. And you see those. I think that the spot where I see the most work being done to sort of undo certain cliches actually is in young adult literature, where oftentimes I'll see a character, the drive of the author is actually to create empathy and understanding about what it is to live a different kind of life. And I'm thinking, I'm trying to remember the name of the title of the book in the United States. A few years ago, it was about an autistic girl and about how she saw the world. And it was an opportunity as a reader to simply live in the life of another person. And that was interesting because it wasn't about superpowers. It wasn't about anything except for just being a person, living a life that's different from one that many other people might experience. And
oui, Paolo. Excusez-moi. Il y a ça, effectivement, quand on écrit, c'est c'est vrai que cette tentative de toujours comme mettre quelqu'un avec, au fond, un super pouvoir, mais il faut aussi accepter que parfois, la personne doit faire face à un handicap, à une perte, qui peut être une perte de mémoire, qui peut être la maladie d'Alzheimer, et des fois, il n'y a pas de rédemption, de satisfaction pour le lecteur. Juste pour venir, pour quand on crie dans Les nuages de Phénix, mon premier roman, je n'avais pas prévu que la petite Blanche qui regarde les nuages soit particulièrement handicapée. J'avais juste l'image d'une petite fille qui regardait les nuages. Mais il est possible que des auteurs qui fonctionnent à partir d'une idée, pour un roman, parfois, ils vont chercher le personnage qui va être le plus vulnérable au drame potentiel.
Est-ce qu'il y a une évolution du traitement du héros handicapé en science-fiction pour vous, par exemple? Je me tourne vers Clément qui...
Je réfléchis. Je dirais qu'il y a une évolution peut-être de la réception, surtout. À une époque, bon, si on reprend l'exemple de Daredevil, puisque j'ai effectivement travaillé sur ce personnage pour la question spécifique du handicap, si on reprend l'exemple donc de ce super aveugle, Stan Lee a été contacté par des gens pour justement Marvel a été plus ou moins remercié d'avoir traité cette question encore une fois extrêmement sociale. Il faut bien se dire qu'à l'époque où Daredevil débarque, on est en 64. Ça fait ça commence déjà à faire un certain nombre d'années et je pense que cette question est pas si évidente que ça à l'époque. Notamment Marvel a aussi traité du thème de la drogue et de la lutte contre la drogue et c'était quelque chose que le Comics Code Authority, donc qui était un organisme de censure, prohibait complètement et les organismes de santé publique ont contacté Stan Lee directement pour lui demander de faire une histoire où Spider-Man aurait affronté le problème de la drogue et le fléau de la drogue. Et à l'époque, c'était totalement interdit de représenter cette chose-là. Et donc, je pense que Marvel, avec ce genre de personnage et avec ce genre de problématique-là, est parvenu à mettre en place quelque chose et un dynamisme qui a poussé les lecteurs, ou certains lecteurs, à vraiment se représenter, s'identifier à ces personnages-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que le problème se soit banalisé, mais déjà, il faudrait parler du cinéma de super-héros qui est incontournable aujourd'hui depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Que ce soit chez DC ou chez Marvel, ça devient presque un gimmick. Et de plus en plus, on a des représentations de personnages extérieurement faibles. C'est le cas d'Iron Man, par exemple, qui en fait a une faiblesse physique et qui n'a d'autre choix que de s'enfermer dans une armure cybernétique pour pouvoir continuer non seulement à vivre mais aussi à lutter contre le mal et c'est devenu des figures de leader et je crois que s'il y a une série aussi qui l'a remis au goût du jour c'est bien la série Netflix de Daredevil pour ceux qui la suivent je trouve que par rapport à ce que faisait le film en 2002 eh bien la problématique du handicap, de l'aveugle handicapé, est remis au centre de cette série. Puisqu'en fait, le personnage qu'on suit au moins dans la première saison du show de Netflix, c'est Matt Murdock. Matt Murdock comme étant un aveugle qui essaye progressivement de devenir un surhomme, un héros. Et du coup, la problématique du handicap et du regard des autres en rapport de son handicap est mis vraiment au cœur de beaucoup d'épisodes. Donc je pense qu'effectivement, il y a une évolution sociale du handicap. Les gens commencent. Les gens continuent d'accepter de mieux en mieux. Les gens continuent à essayer d'adapter le monde pour qu'il soit accessible, parce que le monde n'est pas intuitivement pensé pour les handicapés. Il doit s'adapter aux handicapés. Il y a des efforts de fait. Et je pense que la fiction doit aussi servir à ça, à poser ce genre de questions-là.
Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça, là. Mais j'ai une amatrice de comics aussi.
I thought it was interesting you mentioned Daredevil, because with Daredevil, one of the things that I also noticed, though, is that even though he's blind, his other senses are so strong that essentially his disability in many ways doesn't actually impede him very much. It doesn't actually... It's a very interesting thing that he can fight better than anyone because he has other stronger senses. And one of the things I actually wondered about when I was watching that series was, am I actually watching somebody who's blind at all? Because his other hypertuned senses allow him to do things that no other human being can do and essentially compensate almost completely for the lack of sight. And I wondered, like, is he disabled or is he actually just sort of passing as disabled? And that was something that was in my mind at the time when I was watching that show.
Si je peux rajouter, entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas Daredevil, il est capable d'entendre les battements de votre cœur. Alors, il sait si vous mentez ou si vous dites la vérité.
Ce qui est très pratique pour son travail d'avocat, pour ceux qui ne connaissent pas Daredevil. Est-ce que, en petite conversation juste avant, je vous avais tous demandé de réfléchir à un héros sur handicapé ou un personnage handicapé et de m'exciter, de me dire pourquoi il vous tient à cœur. Si tu veux comment.
Moi, j'avais pensé à... On entend, là?
Oui, on t'entend.
Bon, c'est particulier. Hein. Édouard aux mains d'argent. Ça m'avait beaucoup frappé parce qu'en fait, il a des ciseaux à la place des mains. Donc... Bon, c'est un... On se dit, bon, c'est pas si handicapant que ça, mais en fait, oui, parce qu'il blesse tout le monde, en fait. Et en fait, c'est le premier personnage qui m'est apparu. Il y a aussi le personnage dans Gattaca, Bienvenue à Gattaca, en fait, le personnage qui... c'est les deux personnages qui me sont venus à l'esprit en premier, et Daredevil, mais bon, comme c'est assez, tout le monde parle de Daredevil. Mais bon, Edouard Romain d'Argent, c'était assez particulier, parce que je trouvais, voilà, c'est tellement différent de son caractère, etc. Cet aspect agressif avec six ciseaux m'avait beaucoup frappé et ça m'avait fait... c'était assez triste, en fait. C'était drôle et triste en même temps, en fait. Et bon, bah, le personnage plus réaliste dans Bienvenue à Gattaca, en fait, qui doit trouver un autre personnage pour passer les tests à sa place, etc. Dans une civilisation parfaite, en fait, et où le handicap n'est plus du tout toléré, en fait. Donc,
J'ai envie de l'oublier.
Excusez-moi. Un héros, ok, le summum du personnage handicapé impuissant qui mesure 22 cm a été créé par Anne McCaffrey dans The Ship Who Sang. Et c'est un enfant complètement handicapé, mais dont on développe l'intellect et qu'on implante au centre d'un vaisseau spatial super puissant. Alors, la petite, je ne sais pas de son nom, Aléa ou quelque chose, devient le cerveau du vaisseau et elle contrôle donc toute la puissance de ce long courrier. Alors, c'est assez, le contraste est très puissant dans cette histoire-là.
I think that a character who's really stood out to me is actually, this is not from science fiction, I'm sorry, it's from a television show called The Good Wife, and it's been airing in the United States for a while. I don't know if it's available internationally. Yep. But there's a lawyer played by Michael J. Fox, and he has a neurological disorder which, you know, changes his physical mannerisms and also his facial mannerisms. And so he's very interesting to me because he's got some disabilities that create reactions from people. They judge him. They tend to pity him in some cases. And he uses that very cynically because he's a very, very good lawyer. And it's interesting to watch somebody who, I think that oftentimes, this is another cliche that I think you often see in literature, is that we use disability as a tool to manipulate sympathy. To give you engagement or sympathy with this character and make you like them. Oh, they must be nice because they're disabled. And Michael J. Fox, in this role, plays that. He plays the audience who's watching the television show. He plays the characters who are in the television show. He manipulates them. He's a brilliant lawyer. He's vicious. And it's such a pleasure to watch somebody who, sometimes he does something good, sometimes he does something bad, but he's such a fully realized person, and where his, you know, disability shows up and how he uses it in different parts of his life, it's very striking to me, and I thought it was very different from most other representations I'd seen. So.
Il y en a deux ou trois comme le créateur d'Avros des Daleks dans Doctor Who, qui est le grand méchant en fauteuil roulant. Si je me trompe pas, je ferai plaisir à tous les fans de Doctor Who dans l'audience. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Mais est-ce qu'il y a d'autres représentations de grands méchants en fauteuil ? Je me tourne vers Clément, puisqu'on avait essayé de faire une recension tout à l'heure.
Des grands méchants en fauteuil. Alors moi, chez les gentils, j'avais pensé à Charles Xavier, évidemment. Exactement. Un des leaders des X-Men, qui est représentatif. Après, là, j'avoue que les méchants, là, tout de suite, évidemment, ça me vient pas. En fauteuil, en tous les cas. Des méchants bloqués dans des machines... type Dr. Octopus chez Spider-Man, ça se trouve effectivement, des méchants diminués, effectivement, il y en a, mais en fauteuil typiquement, là, j'avoue...
C'est pas forcément qu'en fauteuil, hein, c'est...
La bonne sèche. Mais...
Laurent se consulte ouais, aussi.
Il me faut...
Blofeld, maybe? Blofeld, maybe, from the old James Bond?
Yep.
Oui.
Mais pour toi, Clément, du coup, quel personnage?
Alors c'est compliqué. Bah peut-être bien le grand ennemi de Bruce Willis dans le film Incassable.
Oui.
Peut-être bien parce qu'il a la maladie des os de verre, une maladie qui est tout à fait effective de nos jours, qui est certes rare mais malheureusement malheureusement toujours en activité, si je puis dire. Et c'est, ça m'a toujours semblé fascinant d'être... Enfin, pour moi, d'ailleurs, ce film n'est pas un film de super-héros. C'est un film sur les super-héros. C'est une espèce de mise en abîme. Et j'ai toujours trouvé absolument fascinant d'avoir ce héros qui, a priori, était donc invulnérable, versus ce personnage qui pouvait être brisé au sens propre d'une simple poignée de main, quoi. Donc l'espèce de faiblesse surcompensée avec ce pouvoir de manipulation et ce charisme incroyable pour justement mettre le héros en face de ses responsabilités et d'accepter sa capacité et son devoir, ce qu'il considère comme étant son devoir. Un fan de comics, qui plus est, donc
un gros fan
la
de
mise
comics.
En abyme. Voilà. Donc, il me semble qu'il est effectivement très intéressant. Et tu parlais de Davros. Moi, je pensais aux Daleks, tout simplement, que je considère comme étant, limite des handicapés, parce que c'est un organisme vivant, une espèce d'huître, le Dalek, dans ces générations les plus anciennes, qui est enfermé dans de la technologie, qui est enfermé dans une poubelle à roulettes quelque part, et qui en devient mortel de par le fait. Et du coup, effectivement, de génération en génération, les Daleks deviennent de plus en plus perfectionnés, de plus en plus. On a l'impression que le Docteur les détruit à chaque fois, mais ils reviennent toujours. C'est un peu l'éternel recommencement du duel sans fin entre le Docteur et les Daleks. Mais ce sont des personnages bloqués. Et pour ceux qui ont vu les dernières saisons, alors sans trop spoiler, il y a un épisode qui va nous faire comprendre très significativement que les Daleks sont forcés, sont formatés pour être des servants du mal, en fait. Et que le Docteur aurait pu être un Dalek si l'univers en avait décidé autrement, en réalité.
Qui, une série, au passage, qui inclut aussi d'autres types de handicaps. Sans trop spoiler, oui. Dans une... je crois que c'est la dernière ou avant-dernière saison, on a aussi un personnage secondaire sourd qui n'est pas affecté par le mal de la semaine, en fait, par les extraterrestres de la semaine.
Et Face of Bo est en permanence assisté médicalement et il sait qu'il va mourir, il sait qu'il est médicalisé en permanence, mais c'est une entité millénaire qui est appelée à croiser le Docteur dans sa destinée un certain nombre de fois et il a parfaitement conscience de sa fin et quelque part il est handicapé en ce sens qu'il a besoin d'être de technologie pour vivre et qu'il n'est pas autonome en lui-même.
I was just reminded there's interesting about talking about Bruce Willis and Samuel Jackson in Unbreakable and the glass bone disease and how, you know, the fragility of the person is the heart of his vulnerability, and it's also the reason why both he reads comic books in the first place and starts looking for his opposite in Bruce Willis and sort of finding his place via comics and via the storylines that say, oh, he must have a nemesis, and in fact his own assumption that I must be the evil one and there's going to be a hero out there who I'm set to destroy. It was very interesting how that there was proceeding from the man's experience, he created a storyline about himself. I was also thinking about I've got another story related to that, which is The Fluted Girl. It's a short story, and in it, she's actually made to be disabled, but her bones are hollowed out by her owner, Madame Bellari, and her owner hollows out her bones and turns her into a series of musical instruments, which renders her both, she's a performance artist, and so she can be played, but she's also immensely fragile at the same time, and there's this moments where she'll encounter one of Bellari's guards, and the danger is that if they grab her, that they'll shatter her. And so she's both valuable and also untouchable, and also they have to control her. That also jumped to mind when you were talking about Unbreakable.
Je pense aussi à un grand personnage qu'on a oublié. Les fans de Star Wars vont me remercier aussi, puisque si on met en perspective, Dark Vador est une personne handicapée, en fait, puisqu'à la base, c'est quelqu'un qui est amputé quasiment de 70% de ses, de son corps.
Et il a quelques problèmes respiratoires également.
Oui, aussi. Mais est-ce qu'il y a justement des personnages handicapés, selon vous, qui dépassent cette péripétie du handicap ou qui échappent à ce processus de quête et d'embûche qui leur arrive ? Est-ce que, par exemple, Pago, quand tu écris, quand tu utilises un personnage, tu m'entends plus ? On a perdu un traducteur, on a perdu un petit traducteur. In your story or more general?
Yes, I do have stories where the character transcends or at least manages around their disabilities. And there's moments where, and most of my characters, they're all finding a way. And I think this is what we do. We adapt to where we're at. We adapt to our situations. Malia is teaching herself to be a doctor, even though she doesn't have both hands anymore. With Emiko, she's actually discovering that she is designed in other ways and trying to find a way to sort of manage the difference between what is too much for her to accomplish and what she can actually accomplish and finding the outer edge of what she can do. And again, I think that's what we as human beings do. I know that for myself, like, even the fact that I'm overwhelmed by being in front of audiences means that I'm testing certain limits of myself all the time. And so I think that, you know, that's, to me, that's what's interesting about a character who's had limits enforced on them in some way, is how we push past those, how we transcend those, how we refuse to be pressed down by those things. And I think those are, yeah, I think they're our most interesting stories.
On va attendre 2 secondes que Pago récupère un casque. Est-ce qu'il y a des personnages qui s'affranchissent vraiment de leurs conditions totalement sans super pouvoir dans la science-fiction pour vous ?
Il y en a, mais je m'en souviens pas.
On a toujours un petit problème de boîtier.
Le volume,
on a vraiment des petits soucis techniques. Paolo va être considéré comme une personne déficiente auditive pour le reste de la table ronde.
I'm so sorry, I'm just not getting any translation anymore. And so. Yes, now I hear you. I love you, I love you.
On remercie les gens de la cabine là-haut, s'il vous plaît.
So speaking about disabilities, the moment when you cannot hear and cannot connect with other people, there's a terrifying thing there where you count on your ability to be able to communicate. You count on your ability to be able to see somebody's expressions, to hear the words come out of their mouth and connect with you. And then to have that cut off is awful. So thank you.
Je ne vais pas changer de sujet. Est-ce qu'on va... Je ne vais pas changer de sujet. Il y a des types de handicaps qui sont des handicaps aussi carrément de santé. Moi, dans ma science-fiction, j'ai des héros, des héroïnes obèses. Et entre autres, une de mes histoires, c'est une femme sur Mars qui pèse à peu près 350 livres, 200 kilos, ou enfin 150 kilos, et qui ne peut pas marcher sur aucune autre gravité que sur Mars. Mais c'est une femme qui a une grande volonté. Alors, elle ne s'affranchit pas du handicap, mais elle finit par, à force de volonté, de débrouillardise, par rencontrer des gens qui lui donnent un vêtement intelligent, qui l'aide justement à marcher à d'autres gravités.
Bon, c'est un peu voilà. Alors par rapport au si je bon, c'est par rapport à nos bouquins, c'est un peu
non,
bon,
pas plus général.
Bon, moi, par rapport, ouais, alors juste en deux mots par rapport à mon bouquin, moi j'ai des femmes dans mon livre et en fait qui sont militaires et qui ont ce qu'on a s'injecte ce qu'on appelle des nano-exhausteurs de capacité en fait pour rehausser leur capacité et de combat et de force physique, etc., pour être vraiment l'égal de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, une compensation juste physique. À part ça, on n'a pas beaucoup parlé du handicap qui ne se voit pas, c'est-à-dire le handicap invisible.
On peut en parler maintenant, si tu veux.
Voilà, ça, c'est quelque chose de différent. Bon, je ne peux pas faire référence à la science-fiction parce que je n'ai pas d'exemple qui me vient. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas toujours bien perçu.
Il y a
pas bien reçu, surtout. Oui.
Si, il y a un chouette bouquin de science-fiction qui est sûrement célèbre et que je n'ai pas cité en préambule. Je suis désolé, sur les préambules, je suis très mauvais parfois, mais on pense à Des fleurs pour agir, non, par exemple.
Oui, j'y pensais.
Qui est quand même, qui parle d'intelligence, de traitement, de conditions de la maladie, ou la vitesse de l'obscurité. Donc le titre, dont l'auteur m'échappe, qui parle de l'autisme, par exemple.
Jonathan Little.
Elisabeth Brown. Merci des gens du public. Mais oui, est-ce qu'il y a pour vous des personnages qui sont handicapés dans l'ASF, dont le handicap ne se voit pas? Je pense, Laurence, tu nous as parlé de ton héroïne, mais est-ce que tu en vois d'autres, par exemple?
J'avais pensé à Algernon, justement. J'y pensais au moment où on a commencé à parler de ça. Il y en a certainement, il y a toutes les... Peut-être pas dans la science-fiction, mais toutes les formes, effectivement, d'autisme, de choses comme ça, ou, par exemple, de perceptions différentes. C'est-à-dire, quand on est, par exemple... J'ai pas d'exemple dans la fiction, mais la synesthésie, par exemple, qui fait qu'on perçoit les choses différemment, est un handicap, par exemple, pour la scolarité. Donc, ça, c'est-à-dire qu'on perçoit pas les choses de la même façon. Et on perçoit une réalité qui n'est pas apparente aux autres. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très très mal perçu et qui peut passer pour une tare. Donc maintenant, j'ai pas d'exemple dans la fiction, mais peut-être quelqu'un en a.
Alors, je viens d'y penser à l'instant. Alors, ça va peut-être vous surprendre parce que c'est pas, on penserait pas à lui intuitivement, mais Sherlock Holmes de Conan Doyle. Je rappelle que Watson, qui suit ses aventures et qui les relate, est un médecin. Et en tant que médecin, il a parfois des... Alors, c'est parfois entre les lignes, parfois c'est plus ou moins sous-entendu, mais il a parfois des diagnostics concernant l'état mental de Sherlock Holmes qui laissent penser à un autisme léger, je dirais, chez Sherlock Holmes, ou à une disposition mentale qui fait que c'est un génie, certes, mais il a des lubies, il tire des coups de feu dans ses murs. Sherlock, chez Conan Doyle, il se drogue également. Il est sous opium et d'ailleurs Watson s'en inquiète à plus d'une reprise dans les romans de Conan Doyle. Mais voilà, on peut penser que Sherlock Holmes a des dispositions mentales qui tiennent certes au génie, mais qui pour le corps médical ou pour ceux qui l'observent peuvent passer pour un handicap plus ou moins avéré, je pense.
Monsieur Spock. Non, oui, bah, tu peux le dire. Hein,
bah, Spock, oui, effectivement.
Enfin,
oui,
Spock.
Bah, Spock.
Ouais, bah, enfin, Spock est un handicapé social puisqu'il n'arrive pas, il n'a pas les mêmes codes de communication.
À transmettre ses émotions, ouais,
les mêmes codes de société de.
I think in terms of you know, hidden disabilities, I think oftentimes of trauma victims, people who've been through a traumatic experience. They appear to be fine on the outside, and yet they are either reliving or are hyper concerned about engaging in certain situations, or are in some cases drawn into situations again and again because they're reliving traumatic experiences. And I'm interested in characters who a lot of times I actually read sort of things like military stories or whatever, and you see these stories of people who we go through life as if we're normal, and yet the interior experience is where is utterly different from other people's experiences around us, and that's interesting to me, particularly, you know, that the same situation, two people standing in the same room are experiencing completely different things based on their histories that are hidden and the wounds that they have that aren't visible.
Est-ce que, par exemple, je vais m'adresser aux trois auteurs, écrire sur le handicap, est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur ce que c'était réellement, ou est-ce que ça vous a changé quelque peu? Vous étiez déjà habitué à ce que c'était qu'être handicapé? Je sais que tu as plus ou moins répondu à la question. Mais,
Oui. Comme je vous l'ai dit, le premier livre, je n'étais pas consciente. Et peu à peu, un auteur qui écrit sur un personnage, c'est comme on construit comme une planète qui est dans un processus d'accrétion des particules. Et le personnage grandit en nous. Et dans le cas de Blanche, là, vraiment, et comme auteur, on s'en rend compte aussi de ce que c'est. Handicap. On peut difficilement faire autrement que d'acquérir plus d'empathie. Et juste en passant, aussi se rendre compte que dans les handicaps de mobilité, un handicapé, c'est n'importe quel d'entre nous après un accident. On y songe.
Juste pour conclure par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que je vais un tout petit peu inverser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai créé un personnage qui est justement handicapé émotionnellement, en fait, je me disais voilà, et ensuite, j'ai réfléchi par rapport aux expériences postérieures, mais en fait, je pense que j'ai créé ce personnage du fait d'un vécu de l'enfance, quoi. Parce que je pense que c'est pas par hasard, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans la chair, dans l'intellect en tant qu'enfant, et j'ai dû transposer, je pense, ce vécu dans mon personnage, en fait. Donc je pense que ça va un peu plus loin que simplement...
I think that as a writer, you're hoping that you're finding the details and doing the research and discovering enough so that you can live with empathy and accuracy inside of a character. I think that on some level, there's only so far the external experience can take you. So. I think that you get through the glass window empathy for what that might be like. I think of Amalia, who had her hand chopped off in the Drowned Cities, and there were things that I could think about and things that I could, you know, I could read all these stories about child soldiers and wars in that I was using for sort of my research for the Drowned Cities books and child soldiers and the barbarities they inflicted on other children and things like that, and then the people's lives afterwards. And I could read a certain amount about that, and I could study a certain amount. But honestly, up until more recently when my son broke his right thumb and I was managing his life in certain ways, that was the moment finally when I was living just one step closer to something that I thought I'd done fairly well and had thought about, and yet I still felt like now I sort of wish I'd broken my son's thumb, you know, many years earlier. No, but it was, you know, there were just those small details of life and those small frustrations that, you know, he'd grown up counting on his thumb and then suddenly it wasn't there. And what did that mean? And you think you've thought it through, but much you take so much for granted otherwise, and so there's so much you can miss.
Vu l'heure, et comme il y a beaucoup de monde et que on va passer la parole au public, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah. On a vraiment des soucis de communication. On a un handicap communicationnel, je pense.
Là, vous m'entendez? Oui.
Oui.
Okay. Bonjour. C'est une question qui, du coup, va faire appel à votre imagination. Moi, j'aime bien ça. Si vous deviez inventer une machine de science-fiction pour améliorer un handicap, quel handicap serait-ce et quelle machine?
Alors, il faudrait inventer une machine pour soigner la connerie humaine, mais...
Merci.
En plan B, j'inventerais bien une machine qui redresserait les colonnes vertébrales et soignerait les scolioses. Je suis directement concerné.
Je crois qu'il faut que tu demandes à Batman.
Ouais, mais oui, il doit pouvoir me bricoler ça sans trop de problème.
Moi, ce serait lié à toutes les pathologies liées au cerveau. toutes les Alzheimer, les choses comme ça, voilà, toutes ces choses-là, mémoire immédiate, perception, voilà, tout ça.
I feel like this is that kind of question where you name one thing and then you name another and then you name another because you want to fix them all. You're like, I want to fix spinal issues. I want to speak, you know, I want to, you know, so there's, why do I have to choose just one? but honestly, the thing that I'm most interested in right now is trauma, and how, once we've gone through traumatic experiences, how difficult it is for us to come back to some wholeness, and if there was some way to do that so that people could live full lives after going through traumatic experiences without having to live in fear, without having to return to that space, that would be it.
Peut-être des petits nanotubes à l'intérieur du corps, des petits mini-docteurs qui se promèneraient partout. Puis, j'ai nommé le vêtement pour aider les personnes qui ont des surpoids à gérer aussi.
Je dois répondre aussi. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. En fait, dans la science-fiction, quand on crée une machine, généralement, on crée directement un remède. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Le monde de la science-fiction est généralement une utopie parfaite où le remède est soit créé, soit un principe de quête en lui-même. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose directement. Je ne sais pas, un fauteuil qui l'évite, c'est toujours pratique. Je vais parler de mon cas personnel, quand j'ai envie d'attraper une assiette, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas obligé de la mettre sur la dernière étagère, donc c'est pratique.
Dans le cas des comics, on a souvent une science qui rêvait d'améliorer l'humanité, et du coup quelque chose va mal tourner et ça va devenir des mutants. Bon, soit pour le bien, donc du côté des super-héros, soit pour le mal. Le Docteur Octopus, donc l'ennemi, un des ennemis principaux de Spider-Man, n'était pas foncièrement mauvais à la base. Il essayait simplement d'améliorer les pratiques de manipulation nucléaire, notamment par des exosquelettes tentacules. Mais ça a mal tourné et finalement ça a fini par lui vriller, bon, à la fois lui bloquer le dos et le corps, mais lui vriller aussi le cerveau. Donc les comics aiment beaucoup véhiculer une science assez hybride qui est porteuse à la fois de merveilles et d'inquiétude et de mauvais tournants finalement.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oh, il y en a quelques-unes.
Bonjour.
Bonjour.
Une question que j'avais, c'est dans la plupart des références que vous avez données, le handicap est la source directe d'un super pouvoir. Mais est-ce qu'il y a aussi des héros dont le handicap est juste un truc qui leur pourrit la vie au quotidien et qui sont héros pour quelque chose qui n'a rien à voir?
S'il y a des gens du public qui veulent donner des infos, on est preneur.
Avatar?
Ouais, Avatar, c'est un peu compliqué aussi. Mais c'est pas la source première qui... Quoi? Je ne sais pas.
Ouais, moi je pensais à Tyrion Lannister autrement. C'est pas de la science-fiction, mais c'est voilà, c'est à gauche de la scène. Je suis par là, voilà.
D'accord.
Ouais, je pensais à Tyrion parce qu'effectivement lui, il est tout petit, il est tout faible dans ce monde de brut, et il compense. Ah, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, mais il compense ce handicap par disons par justement toutes les humiliations qu'il a pu subir du fait de son handicap. Il s'est réfugié dans les livres et est devenu très intelligent. Ah, c'est l'explication de George Martin. Donc ça lui confère une supériorité intellectuelle, mais qui n'est pas directement lié à son handicap, effectivement.
Il y a un exemple qui m'est revenu en tête chez Heinlein. Ça fera plaisir aux fans de Heinlein et j'en vois quelques-uns. Il y a le personnage de Waldo qui s'amuse, qui est un ingénieur qui crée des robots, des bras articulés. Et qui, dans l'espace, crée des bras articulés pour plein de choses et qui est handicapé, mais ça ne lui arrive pas dans le principe même de la quête ou de l'aventure. Et pour la petite info, merci vraiment aux fans de Heinlein qui m'avaient remis ce personnage en tête. Les bras Waldo sont utilisés en physique nucléaire. C'est les bras mécaniques pour toucher les fameuses les substances dangereuses. Voilà.
Je pourrais citer aussi juste quelque chose qui. Les personnages du livre Chute libre, Free Fall de Louis McMaster Bugeaud sont des gens génétiquement modifiés pour avoir 4 mains, donc au lieu de 2 mains, 2 pieds. Et ils s'en servent beaucoup. Puis à un moment donné, ce sont les héros. C'est par leurs yeux et leur sens qu'on voit. Et à un moment donné, ils sont pris à devoir se débrouiller sans l'aide et avec une gravité normale. Et c'est pas facile. Mais c'est un excellent livre de ce côté-là, parce que le handicap, lorsqu'ils sont pas en chute, en milieu, en apesanteur, ça leur pourrit la vie. Voilà.
J'en ai un autre exemple qui m'est revenu aussi, c'est les précoques. J'ai dit non, Minority Report, en fait. Dans Minority Report, on ne demande rien à ces infirmes moteurs cérébraux et les visions, ils ne les contrôlent pas. Ils sont utilisés pour leur handicap et leur pouvoir visionnaire, mais en aucun cas, et ça leur pourrit bien la vie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, bonjour. Alors, pour donner un autre exemple suite à la question de la personne précédente, je pensais à Misfits. Qui présente des héros qui ont des super pouvoirs qui peuvent s'avérer quand même hautement handicapants. Je pense notamment à la personnage féminin qui, dès qu'on la touche, on a tout de suite envie de... Je vous laisse compléter ce que je viens de dire, ce qui devient hautement handicapant quand même. Ou même du personnage qui est immortel, mais qui meurt dans une tombe enfermée. Donc, du coup, ça devient très handicapant. Et puis ensuite, c'était plus une question-remarque, vous réagirez. C'est vrai que quand on parle du handicap, on passe surtout... à quelque chose qui amoindrit, si vous me passez l'expression. Et finalement, est-ce que parfois, le fait d'avoir quelque chose qui nous rend différents des autres, mais qui est une amélioration, un surplus, n'est pas aussi handicapant ? Dans la vie de tous les jours, je pense aux surdoués, qui peuvent être en situation de handicap, d'exclusion dans les classes. Et vous parliez tout à l'heure des fleurs pour Algernon, où effectivement, le personnage se rend compte que lorsque... Le médicament fonctionne et que sa déficience intellectuelle se transforme en génie, se retrouve aussi à l'écart des autres pour une autre raison. Et dernier exemple auquel je pensais, c'est un personnage de Fringe qui a une capacité de calcul tellement énorme qu'il finit par être déconnecté de la réalité et ne peut plus pouvoir interagir avec les autres. Voilà, merci.
Moi aussi. Non, on va prendre une autre. C'était très bien vos exemples, ne vous inquiétez. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas au fond ? Il y en a moins une. Hop. Le micro arrive.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà sur les exemples, je pensais quand même à l'armée des 12 singes.
Oui.
Voilà. Il y avait aussi dans les exemples de maladies mentales. La petite fille d'Emmanuel Jouanne dans Nuages. Voilà. Et sinon, je me posais plus une question ou plus un étonnement qu'on n'ait pas du tout parlé de la biologie du vivant. Alors qu'on est en science-fiction, on parle beaucoup de physique. On a eu la chance d'avoir quelqu'un du CERN hier ou avant-hier. Mais on ne parle pas du tout des manipulations ADN et autres, ne serait-ce que pour améliorer les cassures d'aujourd'hui. Et voilà. Et par exemple, je pensais aussi à Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui n'est pas de la science-fiction, mais qui parle du handicap pour parler du handicap. Et je me demandais si on avait un équivalent en SF. Et là, j'ai pas d'idée en tête. Voilà.
I'm not an expert on that.
Quelqu'un a une idée ?
J'ai pas un équivalent immédiat en SF à votre question. Bien que, bon. Ce que je veux dire, juste en passant, il y a des attentes que le cinéma cultive. Au cinéma, tout se fait rapidement. On trouve la solution 15 minutes avant la fin. On guérit la personne handicapée ou on trouve quelque chose. Et il y a une immense disparité entre ce qu'on voit au cinéma et parfois dans la littérature et ce qui se passe dans les vraies sciences, dans le monde où l'on s'ennuie, là. Il y a une disparité dans le temps de recherche. Alors, ce sont vos attentes qu'il faut savoir ménager et celles du lecteur.
En exemple d'handicap, pas plus métaphorique, mais totalement... Totalement sur la génétique, on peut par exemple citer Genexus chez Ridley Scott dans Blade Runner par exemple, qui toute l'intrigue retient sur le principe de cure génétique puisque le professeur Sébastien est là pour les réparer et faire en sorte que leur code génétique leur permette de vivre plus longtemps. C'est aussi une métaphore de la maladie génétique et de la maladie invisible.
On peut penser à Bienvenue à Gattaca, qui justement travaille sur le côté amélioration génétique au stade de l'eugénisme.
Oui, voilà. Et qui fait très peur d'ailleurs.
Oui, mais qui fait très peur. Mais on n'en est malheureusement pas si loin que ça parfois.
Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question ? Juste là. Oui.
Oui, moi j'avais en fait une autre œuvre qui me venait en tête, c'était Le Cobaye de Stephen King. Alors après, j'ai plus trop l'histoire en tête, mais je crois que le personnage principal est autiste. Et donc il y a un savant qui fait des expériences sur lui et qui essaie de le stimuler, par le biais de la réalité virtuelle. Et au final, ce qui est censé lui permettre de soigner son handicap, en fait un personnage qui devient inhumain. Voilà, c'est un exemple qui me passait par la tête.
Il y a aussi, on peut penser à Orange Mécanique, en fait, sur toute la phase de traitement avec Alex qui se retrouve aussi dans sur cette chaise et traité de manière totalement science-fictionniste. Oui,
c'est vrai. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs.
Oui, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y aurait temps pour une toute dernière question ? Juste là.
Du coup, moi j'ai l'impression que quand on parle des personnes handicapées, on les considère toujours comme amoindries ou affaiblies. Et que du coup, leur aventure consiste à retrouver un certain état de normalité en fait, comme avant le handicap ou sans le handicap. Et du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'une certaine façon de présenter comment est vécu le handicap et faire trouver au personnage des alternatives plutôt que d'essayer de le faire retrouver un état qui est normal, qui est celui sans le handicap en fait.
Il y a un héros de comics dont on a cité déjà le professeur Xavier en fait. Quand tu prends le cas du professeur Xavier, c'est quand même le seul super-héros qui est handicapé. À mon avis de mémoire, en faisant mes petites recherches, il se retrouve deux fois debout en fait. Il fait vite deux histoires, mais c'est le seul personnage dans ma mémoire qui accepte totalement son handicap. Il y a Batgirl, il y a Oracle aussi chez Batgirl, mais c'est un peu différent. Mais tous ces deux personnages compensent en fait. Batgirl, Oracle, elle est devenue en fauteuil après Killing Joke. Bon, je spoilie un peu, mais ceux qui ne connaissent pas Killing Joke, ruez-vous dessus.
Un récit majeur de l'histoire de Batman, un des plus terrifiants, je pense, aussi.
Et professeur Charles Xavier, en fait, si on l'analyse bien, accepte tout à fait son handicap, en fait, en tant que personnage principal. Il le compense juste avec ses super-pouvoirs de télépathe. Enfin, c'est ma vision de la chose. Après, elle n'est pas forcément universelle, mais...
Justement, pour moi, c'est un peu... Enfin, c'est pas que ça me pose problème, c'est que à chaque fois, le handicap est automatiquement compensé. Et là, par exemple, Charles Xavier, il a pas de mobilité, mais dans un sens, ça le dérange pas, parce qu'il peut parler aux gens à distance. Enfin, c'est pas... Le handicap est rapidement compensé. Du coup, il n'y a pas vraiment de recherche d'alternatives, d'exploration en fait du handicap et de son vécu,
ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais Fugger, on n'aura pas le temps de prendre une autre question. On a été très ravis de vous voir aussi nombreux sur cette table ronde. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi.